Frères et sœurs, nous le savons bien, le carême n'est pas un temps comme les autres. Durant cette période, nous sommes appelés à reprendre en considération notre rapport avec Dieu, tout en continuant de vivre à mener notre vie de tous les jours. Pour cela, il nous est demandé de jeûner de nos habitudes, de nous nourrir davantage de l'Évangile, de renforcer notre prière, d'intensifier notre charité à l'égard des plus démunis et de convertir notre cœur au Seigneur. Ces jours qui nous séparent de Pâques peuvent être l'occasion d'un véritable cheminement intérieur que l'on pourrait comparer au parcours accompli par Jésus depuis la Galilée jusqu'à Jérusalem. Être avec lui, l'accompagner au cours des prochains dimanches en nous laissant guider par ses paroles et par son exemple, est la meilleure façon de faire grandir en nous les mêmes sentiments que ceux de Jésus. L'Évangile que nous venons d'entendre dans la suite de notre itinéraire vers Pâques nous présente Jésus en train de gravir une montagne avec ses trois disciples, les trois disciples les plus proches, Pierre, Jacques et Jean. Aujourd'hui, nous sommes conduits, nous aussi, dans un lieu élevé, bien plus élevé que celui auquel nous rattachent parfois nos habitudes, parfois nos égoïsmes et nos mesquineries. Plus qu'un précepte ou que l'accomplissement d'un rite, la liturgie dominicale nous arrache à notre égocentrisme pour nous emmener dans un lieu plus élevé. En 10 ans, il les prit avec lui. L'Évangile nous montre que Jésus a arraché ses disciples à eux-mêmes pour les associer à sa vie, à sa vocation, à sa mission, à son parcours. On dirait que Jésus n'aime pas marcher seul. Ce n'est pas un héros solitaire condamné à être supérieur à tous. Il s'attache à ce petit groupe d'hommes, mêle sa vie à la leur, tout en sachant qu'ils sont faibles, fragiles et limités. C'est même précisément pour cela qu'il les prend avec lui. Il ne les laisse pas en arrière, même s'ils ne le comprennent pas toujours. Jésus ici est le vrai pasteur. Il ne se lasse pas d'être avec ses disciples et les emmène toujours avec lui. Ce jour-là, il les emmena sur une montagne pour prier. Ce texte aborde la question de la prière de Jésus. Comment pouvait bien prier ce Dieu fait homme? Qu'est-ce que la prière pour lui? Posées ainsi, ces questions restent sans réponse. Mais Luc rapporte le constat des témoins. Il nous permet d'approcher de l'extérieur la prière de Jésus. Toute la transfiguration se passe pendant la prière du Christ. Pendant qu'il priait, la prière change son visage, le rend lumineux, le transforme aux yeux des disciples qui pourtant continuent à le reconnaître. Tout comme au moment de l'agonie, la prière du Christ ne l'empêchera pas de mourir. Il annoncera sa passion à l'issue de la prière et celle-ci apparaît comme l'accompagnatrice indispensable dans le passage vers la résurrection. Autre usage encore de la prière de Jésus, elle le fait reconnaître comme fils par Dieu lui-même. C'est l'aboutissement même de l'oraison, le regard qu'échangent le Père et le Fils. Enfin, contrairement à ce que croit Pierre, Jésus ne s'installe pas dans la prière avec Élie ou Moïse. Il parle de départ alors que les disciples veulent bâtir une demeure. Nous avons là que quelques traits à partir du récit de Luc, mais ils sont autant de questions posées à notre propre prière. On rapporte que certains mystiques étaient au sens propre transfigurés dans leur prière. Plus modestement, sommes-nous plus lumineux, plus souriants, changés par notre prière? Pourquoi prions-nous? Pour nous éviter des risques, des dangers, une certaine forme de mort, finalement. Mais prier pour nous ressusciter, pour renaître à la vie de fils de Dieu. Au fond de nous, la prière n'est-elle pas un refuge, une tente, comme celle que voulait dresser Pierre, où nous serions bien à l'abri, à la chaleur de l'amour de Dieu? Parlons-nous souvent de notre départ, non pas au sens de notre mort physique, mais de cet arrachement qui fait de nous des hommes et des femmes du royaume de Dieu ici-bas. Dans le brouillard et au moment de frayeur, une voix continue à se faire entendre clairement, celle de l'Évangile, qui nous indique celui en qui nous devons mettre notre espérance. En ouvrant les yeux, les trois disciples ne virent rien d'autre que Jésus seul. Oui, Jésus est le seul maître de nos vies. Lui seul peut nous sauver. Ce fut sans aucun doute une expérience extraordinaire pour ces trois pauvres disciples. Cela peut l'être aussi pour nous. Si nous nous laissons conduire par Jésus qui nous arrache à notre égoïsme pour nous attirer à lui, nous participerons alors à des réalités et à des sentiments plus grands et nous goûterons une autre façon de vivre. Notre vie et notre cœur se transfigureront et deviendront plus semblables à ceux de Jésus. Les larmes aux yeux de l'apôtre Paul le rappellent dans l'épître d'aujourd'hui aux Philippiens. Le Seigneur Jésus transformera nos pauvres corps à l'image de nos corps glorieux. La transfiguration brise nos limites. Elle donne à contempler combien le Seigneur est bon, combien son horizon est vaste, combien les exigences de l'Évangile sont profondes. Cette liturgie nous a fait voir et entendre Jésus. Restons unis à lui, redescendons de la montagne et entrons avec lui dans la semaine qui vient. Nous ne serons pas seuls pour marcher. Jésus sera avec nous. Lumière, force et consolation dans notre marche vers Pâques. Amen.